France Inter, le 18-20.
Demain, vendredi, les Algériens retournent dans la rue. Ils ne l'ont guère quitté la rue, mais demain, c'est la première grande manifestation depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il ne se représentait pas pour un cinquième mandat, mais qu'il restait quand même. Depuis, la rue algérienne n'a donc pas été dupe. Elle a sauté de joie d'abord sur le principe, mais maintenant, elle appelle à ce qu'elle veut, et c'est bien autre chose. La fin d'un système, la fin d'un système épuisé, probablement aussi épuisé que le président lui-même, qui, soit dit en passant, et on en parlera peut-être, a fait une courte apparition, comme s'il fallait bien au moins prouver que l'homme n'est pas mort. On a beaucoup dit la jeunesse de ce pays, 70% des habitants ont moins de 40 ans. On a beaucoup dit la soudaineté de ce mouvement, mais aussi sa très grande motivation, sa grande sagesse aussi. À ce stade, on a le sentiment qu'il ne peut plus y avoir de retour en arrière, il ne peut plus y avoir qu'un autre après. Mais quel est cet après? Est-ce qu'un homme ou une femme peut émerger de la rue? Est-ce qu'un mouvement politique est né? Que fait l'opposition? Qu'est-ce qu'elle dit réellement? Manifester, oui, mais jusqu'à quand? Pour obtenir quoi? Que faut-il craindre désormais de la réponse du pouvoir? On en discute ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Sintès, le téléphone sonne.
Samir, c'est vous le premier. Bienvenue, Samir.
Merci. Bonsoir, France Inter. Merci, Fabienne. Merci d'avoir sélectionné ma question.
Allez-y, on
en
vous
fait,
écoute.
Vous avez très bien introduit le sujet. Donc oui, moi, je vous appelle aujourd'hui pour l'avenir de l'Algérie. Donc là, le peuple, il se soulève. C'est magnifique. Ce n'était pas espéré. C'est très beau. Il y a des femmes, des jeunes, des enfants, des vieux. Tout le monde manifeste. Alors, voilà, on veut que le système dégage, ça c'est clair. C'est le mot d'ordre, on va dire, du peuple. Le système dégage. Toute la gérontocratie, elle dégage. Ma question, c'est l'avenir. Bien sûr, il va y avoir une période de transition. Il faut qu'elle émane du peuple et non pas du gouvernement actuel parce qu'on veut qu'il dégage. Moi, ma question, c'est l'avenir. À quoi va ressembler l'Algérie de demain? Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'Algérie de demain va être un État, par exemple, avec l'islam comme religion de l'État? Et je voudrais savoir, est-ce que l'Algérie de demain sera arabe, pays arabe? Or que, on sait très bien, historiquement et géographiquement, l'Algérie n'est pas arabe. Elle est multiculturelle, métissé. Oui, certainement, il y a de l'arabe, mais il y a aussi du berbère, il y a du chaoui, il y a du targhi, des mzab, etc. À quoi va ressembler l'Algérie de demain?
Merci beaucoup, Samir, pour cette première question, pour cette entrée en matière qui va bien poser le sujet de ce soir et pour y répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Kaina Rejala est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous êtes membre du collectif Agir pour le changement démocratique en Algérie. Ça a été l'un des collectifs organisateurs de la manif de dimanche à Paris. Et vous
les
y serez encore,
manifs,
voilà, et vous y serez encore dimanche prochain.
Tout à fait.
Et bonsoir, Pierre Vermeeren. Vous êtes
bonsoir.
Historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb. On aura Leïla Berato qui couvre ces manifestations depuis Alger pour nous. On l'aura au téléphone dans un instant. Je vais commencer avec vous, Kaina Rejala. Très concrètement, la crainte de Samir, c'est... Alors, où sont les islamistes? Parce que mettons les pieds dans le plat, c'est ça qui nous dit en creux en fait. On ne les voit pas, est-ce qu'ils sont en creux? Est-ce que ça existe toujours cette crainte-là? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, vous, cette jeune génération, ou pas?
Alors, déjà, il faut se dire que les islamistes, c'est des concitoyens. Hein. Les islamistes sont dans le mouvement, les islamistes... D'abord, on ne sait pas ce qu'on met dans islamiste. Mmh. Est-ce qu'il y a des modérés, il y a des moins modérés, est-ce que c'est juste le barbu qui porte le camis, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils font partie de la marche. Donc, le défi de demain, il est justement de pouvoir construire, une assise qui permettrait le vivre ensemble, qui permettrait de respecter les libertés des uns et des autres, et qui permettrait surtout d'entamer un débat d'idées. Et on le fera avec eux et ils le feront avec nous. Moi, je pense, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois l'avenir. Mais en tout cas, l'Algérie de demain, elle sera construite par tous les Algériens, y compris ces islamistes-là.
Pierre Vermeeren, c'est une question générationnelle au fond, la question de Samir peut-être, non? C'est la question de ceux qui ont une autre mémoire que la mémoire des plus jeunes en Algérie.
Écoutez, je crois pas seulement parce qu'il faut être réaliste. Hein. On a beaucoup de précédents maintenant. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie. De fait, en Tunisie, dès que la constituante a été constituée, si j'ose dire, la question immédiatement de l'islam, de la charia, des femmes, alors charia avec mille guillemets, mais quand même, c'est ce qui était dit, a été mise sur la table. Et franchement, le nœud gordien autour duquel ces débats à la constituante tunisienne ont duré 2 ans, c'était exactement la définition de la liberté de conscience, la question du droit musulman, la question de la place de la religion dans l'État, l'État par rapport à la religion, et la question du statut des femmes. Donc, de toute manière, ce sont des questions fondamentales qui se poseront.
Il n'y a pas une spécificité algérienne qui fait qu'on peut éviter ce genre de questions? Non, on ira.
Je ne crois pas, parce que vous savez, la Tunisie, elle a posé ces questions-là, alors même qu'elle était sous statut civil presque pour les femmes depuis très longtemps, depuis l'indépendance. Alors que l'Algérie, depuis 1984, le code de la famille, c'est un code islamique tout à fait orthodoxe. Et donc, vous avez toute une partie de l'opinion qui, en situation démocratique, va tout de suite poser le problème. Et il y a des gens qui veulent, bien sûr, que cette situation perdure. Donc le débat, on le voit très bien arriver. Alors attention, hein, là on est dans la phase 2 ou 3 déjà, parce qu'avant il faut qu'il y ait un petit certain préalable politique qui soit levé, on n'en est pas là.
Alors justement, et en parlant de ça, et avant d'arriver effectivement à ces préalables politiques, et avant de retourner au standard Kainar et Jala, c'est Samir qui a ces mots, c'est un mouvement magnifique, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a tout le monde à la fois. Est-ce qu'il existe une crainte que ce mouvement soit moins magnifique? À quel moment la frustration peut emmener aussi à une forme de heurts, y compris avec les forces de l'ordre? À quel moment on se demandera quelle sera la réponse de l'armée en face des manifestants? Est-ce que c'est pas ça aussi le grand test de la manifestation de demain à Alger?
Bizarrement, je reste très très confiante sur cette question, parce que d'abord il y a une maturité.
Pourquoi
une...
bizarrement?
Bizarrement parce que je pense qu'il y a quelques semaines on s'attendait pas à ce que ça se passe de cette manière. Mais aujourd'hui je suis totalement confiante, dans la mesure où les manifestations se passent avec une maturité, avec une vigilance sans précédent, et les forces de l'ordre aussi prennent part à cette manifestation, même en fonction. Et on a vu des forces de l'ordre prendre des photos, faire des selfies, et scander aussi Algérie libre et démocratique avec les manifestants. Donc je reste confiante pour l'avenir.
Une question de Sandra. L'application France Inter, doit-on croire les déclarations du régime qui promet d'ouvrir la conférence nationale aux femmes et aux jeunes? La conférence nationale, d'ailleurs, et le gouvernement, puisqu'on a appris là tout récemment qu'il y aurait bientôt un nouveau gouvernement qui serait aussi ouvert aux femmes, ouvert aux jeunes. Ça aussi, c'est pour vous, Kainar Redjala. D'abord, cette fameuse conférence nationale, pardon de le dire comme ça, est-ce que ça ressemble à une sorte de grand débat quand on ne sait pas très bien quoi faire avec un mouvement, selon vous, ou pas?
Cette conférence nationale, d'abord... Au fond, pourquoi pas? Le problème qui se pose, ce n'est pas la conférence en elle-même, c'est pas l'idée de la conférence nationale, mais c'est l'idée qu'elle soit menée avec la mainmise du pouvoir politique actuel dessus. C'est le problème qui se pose. Mais le forum national avait déjà été proposé par un des mouvements politiques qui existe déjà en Algérie. Et le problème dans cette histoire, ce n'est pas la conférence en elle-même, mais c'est le fait qu'elle soit organisée par ceux à qui on demande de partir. Donc,
Pierre Vermeeren, c'est le système qui est essaye de garder sa place, qui s'accroche en fait cette proposition-là.
Ils vont reculer millimètre par millimètre, parce que si vous voulez, il y a une sorte de poker menteur entre la rue d'une part, qui va encore manifester demain, et puis ce pouvoir qui a déjà bougé sous l'influence de la rue, parce que la décision d'annuler l'élection du 18 avril, elle n'est due que aux manifestations et 3 semaines de manifestations. Donc ils ont annoncé ça. Alors ils disent les jeunes, les femmes, parce que forcément ça sera bien interprété aussi en France, à l'étranger, mais pour l'instant, la vraie question qui se pose, c'est à partir du 18, quelle est la légalité en Algérie?
Ah, mais alors justement, d'ailleurs, j'allais vous poser la question avant. Quelle est de toute façon la légalité d'un vice-président là? Quelle est la légalité de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place? Ça n'existe pas dans la Constitution, tout ça, si?
Non, c'est anticonstitutionnel.
Non, alors pour l'instant, on peut toujours nommer un vice-président, même s'il n'a pas de compétences particulières, c'est une sorte de ministre des Affaires Générales. Mais par contre, le problème, je vous disais, c'est à partir du 18 avril, parce que, ou enfin, disons, la fin du mois, hein, quand le mandat, le quatrième mandat sera terminé, on rentrera dans une période qui est à déterminer. Mmh. Donc si le président reste, que le gouvernement reste pour gérer les affaires courantes, que l'Assemblée reste, on va rentrer, ça s'est déjà vu bien sûr, hein, mais enfin il risque d'y avoir quand même des contestations assez fortes sur cette question.
Alors comme vous le disiez, effectivement on sent bien un pouvoir qui essaye toujours de s'accrocher, on ne sait pas encore ce que va faire l'armée, ce qui est une des clés évidemment fondamentales, mais est-ce que d'autres institutions ont déjà viré Kazakh? Qu'est-ce qui se passe des services? Qu'est-ce qui se passe des syndicats? Qu'est-ce qui se passe de tous ces corps-là? En fait, est-ce qu'ils ont pris parti pour la rue? C'est fait. Qui s'accroche encore, au fond, derrière le wagon Bouteflika? L'un ou l'autre? Pierre Vermeyren, d'abord.
On a vu, en tout cas, qu'il y a toutes les institutions sont divisées. C'est le cas du patronat, alors c'est pas une institution, c'est le cas de l'armée, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de journaux qui émanent, alors c'est très difficile de savoir à qui ils appartiennent, mais on dit que tel journal est plutôt du côté de l'ancien DRS, tel autre, etc., etc. Bon, il y a quand même des organismes et des organes qui soutiennent la révolution. On a vu des scènes de fraternisation entre la population et la police. On a vu des déclarations de l'armée très sympathiques vis-à-vis du mouvement, parce que quand un haut général dit que les jeunes qui sont dans la rue rappellent la jeunesse algérienne de l'époque de la guerre d'Algérie, mmh. Ça, c'est quand même pas gratuit, hein. Ça veut dire quelque chose en Algérie. Donc il y a des signes de... Il y a eu les magistrats, mmh. Il y a eu les avocats, il y a eu... Bon, etc. Donc on voit que les institutions restent en place, hein. Ça c'est pas du tout... de toute manière, personne ne veut renverser les institutions. Mmh. Donc les responsables qui souvent ont été nommés ou sont des obligés de Bouteflika et de son équipe ne peuvent pas évidemment se lever tout d'un coup contre lui. Ils sont très prudents parce qu'ils ne savent pas comment ça va tourner. Donc tout le monde est dans la prudence, mais quand même quand vous avez 1000 juges qui prennent position pour le mouvement et pour le départ du président il y a quelques jours, c'est quand même du lourd. D'ailleurs, j'observe que l'annonce du départ du président, enfin pas de son départ, mais disons l'annulation de l'élection et du fait qu'il ne se présente plus a eu lieu juste 2 jours après, je crois, les 1000 juges. Hein. Ça a été très fort symboliquement. Et puis vous avez tous les autres corps professionnels, les journalistes, les intellectuels, les mouvements de jeunes, les syndicats. Donc ça fait quand même beaucoup. Beaucoup, mais après tout, tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il n'y a pas de... Ce qu'il faut bien sûr espérer à toute crainte, mais tant que le pouvoir ne se sent pas contraint d'aller plus loin, il va rester. Donc demain, c'est une journée test, c'est très important ce qui va se passer demain.
Bonsoir Nadia.
Oui, bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue Nadia, on vous écoute.
Oui, merci. Moi, je voulais poser la question, pourquoi est-ce que dans les revendications... qui vient de la rue, il n'y a pas cette revendication qui est pour moi fondamentale. Il n'y a pas plus important que la revendication de ce qui est économique et social, parce que ça sera la base de tout. Parce qu'on peut parler des islamistes, parce que les islamistes, ce mot islamiste, ça fait des années qu'on l'entend. Je ne pense pas que ce soit ces gens-là qui puissent donner une économie stable et réelle en Algérie qui puisse procurer du travail à tout le monde, parce que on voit que ici l'extrême droite s'en est très vite emparée pour dire oui, il faudrait fermer les frontières parce qu'on va avoir 10 millions d'Algériens qui vont arriver, ensuite que même les Algériens qui vivent en France devaient repartir en Algérie. Bon, la démocratie, ça donnera pas à manger aux Algériens, hein, il faut pas rêver. Donc ceux qui viendront après eux, je ne sais pas qui ça sera, mais bon, je pense pas... On voit la Tunisie, hein. Mmh. Bon, il y a une sorte de démocratie, mais il y a une misère sans nom. Voilà, et puis...
Et on a entendu, Nadia, que vous vous étonnez... Ce qu'on a entendu, c'est que vous vous étonnez du fait qu'on n'entend pas parler d'économie, de travail, de ces sujets-là dans les cortèges, Kaina Rejala. Est-ce que, j'ai envie de dire, les choses viennent en deux temps, mais... quand autant de jeunes sont dans la rue, ça dit aussi ça, non? Ça parle aussi de quel avenir j'ai moi dans cette Algérie-là, celle de Bouteflika, quel travail, où on m'emmène en fait?
Tout à fait. D'ailleurs, je pense que d'abord, c'est la peur de l'avenir, c'est le grand flou qui motive, on va dire, ces mouvements-là. C'est ce qui pousse les gens à partir. Mais l'effet déclencheur quand même de ce mouvement, ça a été cette image insupportable, ce cinquième mandat de trop, qui a suscité une certaine sentiment d'humiliation de ces jeunes. Donc je pense pas que ce soit les raisons socio-économiques, même si elles sont là, mais qui aurait été l'effet déclencheur de ce mouvement. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir ce président incapable de s'adresser à sa population, incapable de se lever, incapable de parler et d'être face à une régence finalement au lieu d'un chef d'État.
Et à quel moment il faut mettre un projet de société du coup derrière les manifestations? On parlait du code de la famille tout à l'heure par exemple, entre autres choses, mais à quel moment il faudra que vous, les manifestants, vous mettiez ce projet de société? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra faire émerger obligatoirement des gens de ce mouvement? Est-ce que déjà on y pense ou pas?
Je pense que ça viendra au fil du temps. Je crois pas qu'on y pense pour le moment, même si on en parle hein, comme ça dans les coulisses, mais je pense pas qu'on y pense vraiment. Je pense qu'il y a une première étape qui est cette étape de transition démocratique, de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait cet espace démocratique qui permette le débat des idées, et par la suite viendra les discussions sur le code de la famille, viendront les discussions sur le système économique, etc. Donc, mais dans un premier temps, ce qui importe, c'est d'abord permettez-moi l'expression, que ce système dégage. Et surtout qu'on se mette en place pour une transition.
Pierre Vermeyren ?
Oui, un mot juste sur l'économie, parce que votre interlocutrice a tout à fait raison. L'Algérie aujourd'hui vit entièrement de la rente pétrolière. Ça ne va pas durer. Elle ne produit pas grand-chose. Et elle est très dépendante des importations. Et elle a une très grosse fonction publique. Hein. Presque la moitié des Algériens ne sont pas fonctionnaires, bien sûr, mais vivent dans des familles de fonctionnaires. Donc, tout ça coûte très cher et tout ça n'est pas viable. Donc, il faudra immédiatement, dès que le préalable politique sera posé, il faudra libéraliser... je ne sais pas de quelle manière, d'ailleurs, je ne suis pas économiste, mais il y aura de quoi faire parce que, si vous voulez, il faut que les gens puissent créer des entreprises et puissent construire une économie, au moins, qui produit dans tous les domaines, l'agriculture, l'industrie, parce que si vous voulez, c'est pas possible qu'un pays aussi grand, avec une population aussi nombreuse, dépende d'une rente totalement aléatoire. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, une des raisons de la crise, malgré tout, c'est que la rente a été divisée par deux depuis 4 ans, et que du coup, les gens aussi sont dans la rue, parce que quand le pouvoir était très riche et inondait la population de pétrodollars, c'était bien. Maintenant qu'il les retire, évidemment, le roi est nu.
Je voudrais qu'on rejoigne Leïla Berhato, qui est la correspondante de France Inter en Algérie. Leïla, je sais qu'il y a un très gros décalage entre vous et moi, donc je vais vous poser deux questions en une, vous allez pouvoir enchaîner l'une avec l'autre. D'abord, je voudrais que vous nous racontiez un peu quelle est l'atmosphère dans les rues d'Alger où vous êtes en ce moment à la veille de cette grande manifestation. Et puis, Leïla, vous qui êtes journaliste, on a vu des scènes intéressantes, notamment à la télévision. On sait aussi évidemment que cette jeunesse dans la rue d'Alger s'informe par bien d'autres biais. Est-ce qu'il se passe aussi quelque chose de ce côté-là? On parlait des institutions qui étaient en train de prendre le parti de la rue. Racontez-nous aussi ce que dit la presse aujourd'hui, comment elle se positionne, la presse et notamment Téléradio qui était aux mains du pouvoir, comment elle se positionne par rapport à ce mouvement, Leïla?
Alors écoutez, il y a plusieurs choses à dire. D'abord l'ambiance, je pense qu'il y a une ambiance de préparation de manifestation très clairement. Les Algériens ne sont pas satisfaits de la proposition du président de la République. Les manifestations se sont poursuivies toute cette semaine. Les partis d'opposition ont dit qu'il n'était pas possible de faire avec ces propositions qui sont en dehors de ce que propose la Constitution. Donc aujourd'hui, on est dans une ambiance de préparation de grandes manifestations de demain. Et la manifestation de demain, ce sera un test pour voir si l'ampleur des manifestations est équivalente à celle des semaines précédentes. En ce qui concerne la presse, si vous voulez, le moment est à la réflexion parce que au début, et on en a déjà parlé, les journalistes des médias publics ont demandé à pouvoir couvrir ces manifestations. On ne les a pas laissés faire au début, mais aujourd'hui, il semble que les directions des médias lâchent un peu de lest et que mes confrères, en tout cas de la télévision publique et de la radio publique, ont couvert ces derniers jours les manifestations de façon régulière. Voilà.
Leïla, est-ce qu'on commence déjà à parler de ce qu'il doit émerger de ce mouvement-là, et surtout en termes d'hommes? Est-ce que c'est dans ce mouvement-là qu'il faudra aller chercher la suite? Est-ce que c'est déjà des choses qui se disent, même s'il est peut-être trop tôt évidemment pour donner des noms, mais est-ce que ça fait partie des préoccupations? Si on veut avancer, il faudra faire émerger ou pas, en fait?
Mais oui, mais c'est tout le débat. Il y a une grande division entre ceux qui disent il faut faire émerger des gens et d'autres qui disent non, c'est un mouvement du peuple. C'est-à-dire que c'est la grande division d'aujourd'hui. Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, la crainte que faire émerger des leaders, ça amène à ce que le pouvoir, si vous voulez, soit s'accapare ces leaders, soit les rendent plus fragiles, et que donc les demandes du peuple n'aient pas de réponse finalement, puisque ces personnes seraient amenées du côté du pouvoir, du côté des autorités, comme ça a été le cas dans beaucoup de mouvements auparavant. Il y a une vraie crainte de ça, il y a une vraie crainte de la récupération s'il y a des leaders, et il y a aussi une vraie crainte qu'on ne puisse plus entendre la voix de personnes qui ne se sentiraient pas représentées, alors qu'elles se sentent représentées dans ces manifestations qui mêlent toutes sortes d'Algériens, toutes opinions confondues, toutes classes sociales et histoires personnelles confondues. C'est un mouvement qui est très rassembleur et les gens n'ont pas envie de sortir de ça en ce moment.
Merci beaucoup Léla Beraton, on suivra avec grand plaisir ce que vous nous raconterez évidemment de cette manifestation de demain. Kaïna Redjala, est-ce qu'une opposition, l'opposition actuelle en Algérie, parce que même s'il a été étouffé, elle existe malgré tout, est-ce qu'elle est en mesure de prendre un relais? Je ne sais pas dans combien de temps durera cette transition-là, ou est-ce que même ça, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la rue disent non, même pas en fait, parce qu'au fond, ça fait aussi partie du système.
Je rejoins ce que vient de dire Léla Beraton. En effet, il y a une division là-dessus, en tout cas de ce que je vois autour de moi et dans les réseaux sociaux. Certains appellent certaines figures très connues à prendre part, par exemple, à la constituante, et puis d'autres considèrent que non, c'est le peuple qui doit faire ça. Il y a une méfiance qui est due à un passé et qui est due d'ailleurs à ces 20 ans de Bouteflika, où il y a eu des récupérations, où il y a eu des manipulations. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une grosse crainte, mais je pense que c'est dans ce processus de transition qu'il faudra qu'émergeront des figures, et à partir de là, et parce qu'ils seront issus du mouvement, peut-être que la confiance reviendra, c'est possible.
Bonsoir Mohand.
Bonsoir France Inter, bonsoir Fabien Sintès, et bonsoir à tout un chacun et chacune.
Allez-y Mohand, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Écoutez, d'abord merci de m'avoir accueilli. Non, ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à ce que j'entends, moi j'ai fui ce pays il y a 40 ans, j'avais 25 ans. J'avais peut-être ouvert les yeux avant beaucoup d'autres gens, mais sans prétention aucune. Mais le problème aujourd'hui, il n'est pas lié à Bouteflika, et il est lié à une engeance. Donc on parle de quelqu'un qui n'a plus la capacité ni la possibilité de diriger un pays. Avant il l'a fait. Et puis les gens qui sont aujourd'hui dans la rue, ce sont les enfants de ceux qui n'ont rien vu depuis 57 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont nés en 62, pendant 57 ans, ils ont brassé du noir. Et aujourd'hui, ces gens, enfin ces jeunes, en grande partie, font ce que nous n'avons pas pu faire. Non pas qu'on n'avait pas le courage, mais on n'avait pas la possibilité, on était muselés. Soit il fallait se taire, soit il fallait fuir. Et aujourd'hui, si l'armée, c'est le pouvoir, l'armée, ne décide pas quelque chose, c'est-à-dire écouter ce qui se passe dans la rue, entendre les revendications qui sont tues depuis des années, rien ne pourra se passer. Donc, le retour de M. Bouteflika en Algérie, et puis avec l'annonce qui a été faite derrière, ce n'est pas lui. Je veux pas l'excuser ou rien du tout, mais je veux dire, je répète mon terme, il y a une engeance autour. Et puis, tout à l'heure, je disais à votre collègue ou collaborateur,
Amélie, ouais.
Je disais, vous savez, Échec et mat vient de l'arabe. Ça veut dire Cheikh Mat, le roi est mort. Or, ce roi-là, qui est Bouteflika, ne s'est jamais entouré de petits princes, d'émirs ou rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est le vide. Et quand il y a un vide, eh ben, c'est l'anarchie, on ne sait pas quoi faire. Alors on va tirer un tiroir. Mmh. Le tiroir, c'est quoi? Eh ben, je ne me présente plus aux élections. On va faire une période de transition. On va attendre comment on va s'organiser, quelle stratégie on va adopter. Moi, si vous voulez, je reste perplexe. Je l'ai dit à des amis, quand je dis des amis, c'était des coopérants techniques avec qui j'enseignais en Algérie, et maintenant c'est moi qui suis de l'autre côté. Alors, quand on discute ensemble, il y a des moments où je m'énerve, parce que je dis, c'est un très beau pays, extraordinairement beau, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir visité. Moi, je l'ai fait deux fois en com, ma profession d'antan me le permettait, et aujourd'hui, je reste perplexe. On parle, mais en vérité, il n'y a rien. Et puis même ceux qui parlent aujourd'hui parmi les politiques, ce sont des gens qui ont participé à ce gouvernement en grande partie.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez faire du neuf avec du réchauffé?
Merci beaucoup. Merci.
Je vous parle avec une telle conviction, une telle ferveur qu'à la limite j'aurais aimé être parmi vous là-bas sur le plateau pour échanger avec les uns et les autres.
Mais voilà. Vous y êtes parmi nous, Morand, sur le plateau. Merci beaucoup pour votre question, Pierre Vermeeren. Au fond, comme il dit, je me souviens plus quel terme a utilisé Morand, mais c'est pas Bouteflika, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Effectivement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Comment est-ce que ce pays, l'Algérie, peut fonctionner après une période de transition en ayant balancé tout ça par-dessus les moulins, honnêtement?
Écoutez, il faut bien déboucler cette situation très ancienne et assez infernale contre laquelle proteste aujourd'hui le peuple algérien. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que, comme je vous disais, les forces vives sont dans l'État. Mm-hmm. C'est un État très puissant. C'est un État en plus que personne ne veut, personne n'en veut à l'État. Bien au contraire, il incarne l'Algérie. C'est l'héritage de la guerre d'indépendance. Mm-hmm. Bon, donc il y a cet État. Ensuite, il y a des institutions très puissantes comme l'armée. L'armée, je vous le disais tout à l'heure, elle envoie actuellement des messages contradictoires et elle n'a aucun intérêt à s'emparer de... Elle avait donné la présidence à Bouteflika et à des politiques justement pour se retirer un petit peu. Alors évidemment, elle n'est pas très loin du pouvoir, mais l'armée ne peut pas aujourd'hui diriger le peuple, je pense. Et elle ne veut pas, c'est une charge gigantesque.
Ouais, ça veut dire que la clé, c'est pas ça. Moi, on avait l'air de dire tout à l'heure, on attend de voir ce que font les militaires, la clé, c'est l'armée. Est-ce que la clé, c'est vraiment l'armée?
Non, la clé, c'est dans les manifestations, c'est dans la jeunesse, c'est dans les populations, c'est eux qui ont la capacité de faire bouger les choses. Il y aura pas d'hommes providentiels, vous savez, le monde arabe et le monde berbère d'ailleurs en a soupé, des hommes providentiels, ils en ont souffert. Donc faut trouver un petit chemin qui va certainement être une assemblée délibérative, je ne sais pas quelle forme aura cette assemblée constituante, c'est par là et par les débats à l'intérieur de cette institution. Si l'armée est sûre enfin je veux dire, elle va rester en réserve, on a bien vu en Égypte comment ça se passe, ça a mal tourné mais ça peut aussi bien tourner,
hein. Abdelaziz Bouteflika, alors on a vu ces images, d'ailleurs je le disais tout à l'heure en introduction, on a l'impression que c'était une manière de montrer au monde, non mais regardez, il est bien vivant, parce qu'il y a eu tellement de bruit qui disait qu'il était mort, au moins on l'a vu, et c'était presque d'une tristesse infinie en fait de voir ces images-là. Est-ce que au fond cet homme qui a fabriqué ce système n'est pas victime lui aussi de ce qu'il a, enfin est-ce qu'il n'est pas devenu presque la victime de son propre système, Abdelaziz Bouteflika, Kaina?
Bah, a priori, oui. On ne sait pas trop. Bon, certaines disent que quand même, il continue à communiquer un peu avec son clan. Moi, j'ai du mal à y croire.
On se demande s'il comprend ce qui lui arrive.
Mais on ne sait même pas qui écrit les lettres. Les lettres sont contradictoires. La première lettre où il explique qu'il se présente à un cinquième mandat, la lettre d'après, il se présente, mais pour organiser des élections anticipées une année plus tard. Et puis finalement, il n'a jamais été question de cinquième mandat. La grosse question, c'est qui écrit ces lettres, comment, et est-ce que c'est les mêmes, voilà. Donc
c'est pas très grave parce que de toute manière c'est son entourage immédiat, voilà. Quelles que soient les personnes.
Voilà.
Mais combien de temps, Kaina Rejala, je sais pas, que c'est très compliqué de donner une date, mais combien de temps on acceptera en Algérie une forme de transition, parce que ça peut effectivement, le risque c'est que cette espèce de situation dure extrêmement longtemps. Est-ce qu'à un moment il va falloir se dire il faut inventer autre chose et ce sera maintenant? Combien de temps vous pouvez tenir dans cette espèce de moment d'entre-deux?
Ben, j'espère qu'on pourra tenir le plus longtemps possible. En tout cas, tant que le régime ne se sera pas retiré. Enfin, tant que Bouteflika et son clan ne se seront pas retirés. Ensuite, est-ce que la période de transition, combien de temps elle doit durer, c'est la grande question. Je ne sais pas, doit-elle durer trop longtemps? Et si elle dure trop longtemps, il y a un risque de récupération. Si elle dure pas assez longtemps, en même temps, ça prend du temps pour reconstruire un pays. C'est les discussions qui se font actuellement, en tout cas, qui existent dans les coulisses de la société civile. Ça se discute, ça s'échange. Enfin, on échange beaucoup là-dessus, mais ça reste quand même relativement
flou. Tant que la violence n'est pas là, tout est possible, c'est ça. Hein. Il faut absolument parer le risque, parce qu'il y a eu des perturbateurs ou des provocateurs qui sont intervenus et qui interviendront. Donc le risque, il est là, mais il est tellement bien identifié. Parce que les Algériens en ont tellement mesuré les conséquences dans le passé que pour l'instant, il est contenu.
Cette question, Pierre Vermeeren, qui est un peu la question serpent de mer, la France va-t-elle finir par sortir de son silence relatif et prendre une position claire sur ce sujet? Moi, j'ai envie d'ajouter, la France doit-elle réellement prendre une position autre que celle d'observatrice et d'attentiste qu'a exprimé Emmanuel Macron? Très compliqué.
C'est
quand
extrêmement
même.
Difficile parce que, vous voyez, Emmanuel Macron, bon, qui est président de la République, a dit qu'il avait observé ce qui s'était passé, qu'il adressait son amitié au peuple algérien et qu'il espérait que la transition ne serait pas trop longue. Mm-hmm. Et immédiatement, bien sûr, des voix ont surgi en disant ingérence française,
bah oui,
etc.
Forcément.
Donc voilà. Donc il est
dès que la France ouvre la bouche, c'est très très compliqué.
Alors,
forcément.
C'est pas forcément la France, mais c'est en tout cas la France politique enfin,
l'ancienne
officielle.
Puissance coloniale, c'est quand même beaucoup plus dur.
Oui, ce que je veux dire, c'est les dirigeants de la France. Ils ont une marge de manœuvre extrêmement limitée. Je crois que l'essentiel a été dit. Après, il y a des diplomates, il y a des gens sur place, il y a un ministère des Affaires étrangères, et puis il y a beaucoup d'amis de l'Algérie en France, beaucoup d'amis des Algériens. Ces gens-là, ils peuvent parler, mais c'est vrai que l'État ne peut pas aller plus loin. Il accompagne le mouvement. De toute manière, l'expérience des printemps arabes a prouvé à la diplomatie française que on pouvait aussi se fourvoyer très largement en allant trop vite, en allant avec des gens qui ne seront plus là au bout de... Voilà. Donc je crois qu'il faut observer, il faut adresser sa sympathie, il faut espérer que la violence n'existera pas et effectivement que la marche démocratique du pays va marcher dans cette direction. Après, je crois que ça serait vraiment même contre-productif d'aller plus loin.
Kainer Ejala, 70% de ce pays de toute façon est né après 62. Donc au fond, pour votre génération à vous, est-ce que ça a du sens d'entendre un mot qui viendrait d'Emmanuel Macron?
Oh, je pense que ça, on attend quand même des réactions, même si c'est très confus. On attend des réactions et en même temps, on attend qu'on réagisse pas trop. Donc, on est entre les deux. Je pense que la prudence.
On attend beaucoup de vous réagir, pas réagir, manifester, mais calmement. Enfin,
voilà. C'est compliqué. Indifférence, pourquoi? Ingérence, pourquoi? Donc, c'est assez compliqué. Je pense que, alors, la déclaration quand même d'Emmanuel Macron a fait réagir négativement un peu les Algériens dans la mesure où il a salué la décision de Bouteflika. Et quand on sait que ce qu'il y a derrière cette décision, c'est assez compréhensible, mais il est clair que la prudence est... Moi, je comprends la prudence de la France officielle.
Bonsoir, Farouk.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Farouk, allez-y.
Oui. Je m'appelle Lamine Farouk, je fais partie de l'opposition et d'un parti politique qui s'appelle Jadid, Nouvelle Génération.
D'accord, ok.
Donc, je voulais juste dire une chose.
Et on vous écoute?
Oui, donc je trouve qu'on a beaucoup décrédibilisé l'opposition, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques en Algérie qui ont soutenu l'opposition, mais il existe des partis politiques, il y a une tradition politique en Algérie de l'opposition. Parmi eux, il y a M. Sofiane Djilali qui manifestait, ça fait des mois, et sortait dans la rue, et à chaque fois il se faisait arrêter par la police. Et je pense qu'il est temps pour les Algériens d'essayer de choisir des politiciens qui existent, des intellectuels, des gens qui ont toujours été dans l'opposition. Et il est temps de passer à autre chose au lieu de se concentrer sur Bouteflika parce qu'il y a trop d'opacité, il y a eu toujours beaucoup d'opacité en Algérie. Quand vous lisez les journaux, vous n'apprenez rien parce qu'il n'y a que de la spéculation.
Ça veut dire qu'il y a une relève, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Alors évidemment, je comprends bien pourquoi vous nous le dites vous, mais vous pensez qu'il y a une vraie relève et qu'elle est là, elle est prête en fait.
Pardon ?
Vous dites qu'il y a une relève, elle est prête et elle est là en fait.
Exactement, il y a une relève, je pense qu'il faut juste développer un peu plus la conscience politique et passer à l'étape suivante. Maintenant, on a dépassé la barrière psychologique de la manifestation parce qu'on nous disait qu'on était trop violent, on pouvait pas manifester. Maintenant, il faut penser à faire émerger des personnalités politiques et ne pas se concentrer sur ce gouvernement et ses stratégies. Parce qu'il a toujours été opaque et on ne saura jamais qui est en train d'écrire ses lettres. Ce gouvernement est en train de nous dire que nous sommes manipulés alors qu'on voit très bien que ses responsables sont en train de lire des lettres. Alors que nous, on ne sait pas qui est en train d'écrire ces lettres. Les gens l'écrivent dans les réseaux sociaux. Dites-nous qui écrit ces lettres, nous vous dirons qui nous manipule. C'est une excellente réponse.
Merci beaucoup. Merci de votre appel. Kainer Ejala, est-ce que ça vous parle, Nouvelle Génération, par exemple?
Alors, oui, l'opposition a toujours existé. C'est très, très important parce qu'on n'a pas attendu le cinquième mandat. Le quatrième mandat, déjà, il y a eu une forte opposition par rapport au quatrième mandat et les opposants, et parmi eux, Djadid, j'en témoigne. Djadid, il y a le mouvement de Mouattana cette année, il y avait le mouvement de Barakat il y a cinq ans, ont été réprimés de manière très, très violente. L'opposition a toujours existé. Je pense que le peuple a besoin de reprendre confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on. C'est peut-être le prochain défi, c'est se faire confiance entre nous et pouvoir mettre en avant certaines figures, pas forcément des images, mais voilà, des organisations.
Pierre Vermeiren.
Oui, il faut distinguer la très grande politisation des Algériens en général et leur absence d'expérience de la démocratie. Des élections libres, il n'y en a jamais eu depuis l'indépendance. Il y en a eu une à l'indépendance. Mmh. Et depuis, l'expérience démocratique, c'est quand même une culture, la démocratie. Ça s'apprend, c'est compliqué, c'est ingrat. Et donc, voilà, ça peut pas s'apprendre en quelques semaines. Donc, ce qui se passe actuellement dans les manifestations, ce qui se passera demain dans la conférence nationale, ça va être une pédagogie. Mais c'est un processus qui commence.
Une question de Kader, c'est pour vous, le spécialiste du Maghreb. Kader nous demande, est-ce que les événements en Algérie peuvent avoir des conséquences sur les pays voisins? Et je pense au Maroc, nous dit-il particulièrement, puisque le roi du Maroc, après tout, est arrivé la même année au pouvoir que Bouteflika. Est-ce que ça pourrait donner des idées aux Marocains?
Ah, écoutez, au Maroc, j'y étais la semaine dernière, c'est le grand silence, c'est une observation très intéressante et très angoissante aussi, hein, parce que c'est vrai que ce qui s'était passé par le passé en Algérie a beaucoup marqué et beaucoup terrorisé aussi au Maroc. Donc oui, mais il y a beaucoup d'espérance aussi par rapport à ça, bien sûr. Hein. Le Maroc avait connu un printemps en 2011, il y a eu les événements du Rif il y a 3 ans, tout ça fait sens. Hein. Vous savez, le Maghreb est en ébullition, mais tout le monde se regarde et maintenant par les réseaux sociaux, tout le monde communique avec tout le monde. Donc l'information n'est plus cloisonnée comme avant.
Et est-ce que d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des échanges avec les Marocains, avec les Tunisiens, les uns vous disant voilà nous comment on s'est débrouillé à ce moment-là, même si on ne va pas comparer les formes de révolution, je vais dire ce terme très générique. Est-ce qu'on se parle au moins au Maghreb en tout cas?
Personnellement, je n'ai pas vu ça.
Okay.
Voilà. Personnellement, je n'ai pas vu ça. Il y a très peu de communication. Peut-être qu'il y a des tentatives de communication avec les Tunisiens pour l'expérience de la Constituante. On cherche quand même à connaître l'expérience tunisienne au plus profond. Mais avec les Marocains, moi, j'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux, honnêtement.
Allez, Gilbert, c'est vous le dernier. Vous nous servirez de conclusion. Soyez le bienvenu, Gilbert.
Oui. Bonsoir. Merci de me prendre au téléphone. Merci pour votre émission. Voilà. Je suis ce qu'on appelle un Français d'Algérie. J'ai quitté l'Algérie en 1963, j'avais 10 ans, donc après l'indépendance. Je garde un souvenir absolument extraordinaire de ce pays, c'est vraiment mon pays natal, c'est ma terre natale. Et donc je suis très admiratif devant le courage des Algériens, de la femme algérienne, les Algériens veulent montrer qu'ils sont capables de prendre leur destin en main. Et je vois notamment des images de ce qu'on appelle le tunnel des facultés Alger, ce tunnel puisque je suis retourné en Algérie en 2004. Et donc je suis très ému de voir cette révolution pacifique algérienne, et c'est vraiment un message de fraternité que je veux lancer à tous les Algériens et à toutes les Algériennes. Excusez-moi, je suis très ému parce que vraiment l'Algérie c'est vraiment c'est ma terre, c'est mon premier pays, quoi. C'est le pays où j'ai vu le jour, et tous les gens qui sont nés en Algérie ont aimé ce pays passionnément. Voilà, et je pense qu'il faut même dépasser l'antagonisme de la décolonisation de cette guerre d'indépendance qui était nécessaire parce que les Algériens devaient devenir un pays indépendant. Et donc moi, je veux vraiment lancer ce message de fraternité, d'amitié envers tous les Algériens. Et bravo pour votre courage. Et j'espère que vous allez tous pouvoir prendre votre destin en main. Et j'espère aussi que la France sera tendre et que les Français sauront tendre la main aux Algériens pour les aider s'ils le souhaitent, et en tout cas pour être à leur côté dans leur combat pour la liberté.
Merci beaucoup Gilbert, merci pour ce message qui fait plaisir à Kaina Rejala. Quand Gilbert parle de révolution pacifique, est-ce que c'est comme ça aussi que vous qualifieriez ce qui se passe aujourd'hui chez vous?
Ah, nous on le qualifie quand même de révolution du sourire, c'est encore mieux. Donc on assiste quand même à une révolution joyeuse, où les gens sont joyeux, ils sont beaux, ils sont souriants, ils ont les yeux pétillants. Moi je voyais les photos ce matin, parce que tous les mardis, le mardi c'est la journée des étudiants, ils se faisaient plein de photos entre eux, les filles, les garçons en train de faire des pancartes, etc. C'est la révolution de la beauté, hein, pour moi, donc je vais plus loin.
Et la révolution de la beauté, la révolution du sourire, on espère que ça continuera à se passer de cette manière-là. Le prochain rendez-vous dans les rues d'Alger, c'est demain vendredi, et puis peut-être qu'on vous retrouvera aussi Place de la République à
Avec
Paris.
Plaisir.
Merci.
Ça aura des petits sams.
Voilà.
Et portez-vous bien.